Mes bien chers amis, le politicien bouffon Ray Alcaouette va lancer son parti appelé Ralliement créditiste dans les prochaines élections provinciales du Québec pour la première fois. C'est contraire à tout ce qu'il déclarait depuis la fondation de son parti. Ce serait user ses forces inutilement, disait-il, car c'est à Ottawa seulement que le crédit social pouvait être instauré légalement. Si Caouette change, ce n'est pas par principe, mais par calcul de politicien qu'il le fait. Les principes, eux, ne tracassent guère au point du tout Réal Caouette. Son ralliement créditiste vient de sortir tout un programme d'administration de la province pour le jour XY où il accédera au pouvoir. Promesse de telle et telle chose dans l'agriculture, dans les forêts, les pêcheries, les mines, l'industrie, le commerce intérieur et extérieur, la voirie, l'enseignement, etc., etc. Il présente tout cela comme une application du crédit social, alors que le crédit social n'est pas du tout un système d'administration. Alors qu'une économie bénéficiant de l'adoption des données financières du maître génie Douglas ne passerait des 4/5 des administrations et interventions gouvernementales dans les corps tant publics que privés, alors que les plans de ci et de ça sont du socialisme d'État, le contraire exact du crédit social. Le crédit social ne peut pas servir d'étiquette à un parti politique sans prostituer le sens des mots. Crédit social et parti sont deux termes contradictoires. Le premier implique une association comprenant tous les membres de la société. Le second implique une division, un groupe, entrant en lutte contre un autre ou plusieurs autres groupes se disputant le pouvoir. Le parti veut être en possession du pouvoir pour gouverner le pays. Le crédit social veut distribuer le pouvoir à chaque individu, un pouvoir qui le libérera de plus en plus des interventions du gouvernement. Une vérité comme le crédit social ne peut pas non plus être soumise aux critères d'une majorité de vote. Mais est-ce qu'un parti politique nouveau ne pourrait pas mieux inaugurer un système financier de crédit social que les vieux partis? Vieux, moins vieux ou flambant neuf, la réponse c'est non. C'est humainement, je souligne le mot humainement, c'est humainement impossible. Le monstre financier, le super pouvoir des contrôleurs mondiaux de l'argent et du crédit, est plus fort que tous les gouvernements du monde. Il les domine tous. Cette subordination des gouvernements au seigneur de la finance n'est pas un secret. Il y a plus d'un siècle déjà, en 1844, Disraeli, qui fut plusieurs fois ministre des Finances et même premier ministre de la puissante Angleterre d'alors, s'en est plaint publiquement, sans pour cela pouvoir s'en défaire. D'autres chefs d'État aussi. Il suffit d'ailleurs de constater les situations qui se succèdent de notre temps, crise d'argent de 10 années, finances à déborder de 6 années de guerre, restrictions cycliques du crédit, dette publique perpétuelle et croissante, décret concerté de mesures d'austérité, alors que rien n'a diminué dans la capacité de production des pays concernés, ces faits qui grèvent les yeux démontrent à l'évidence que des contrôleurs de l'argent et du crédit tiennent nos vies entre leurs mains, selon la parole de Pie XI, que par les banques à leur service, ils dirigent les décisions des gouvernements et tiennent dans le creux de leurs mains les destinées des peuples, comme l'a bien exprimé McKenna, ministre anglais des Finances, puis président de la plus grosse banque commerciale d'Angleterre. Il savait donc ce qu'il disait. Les gouvernements, réduits à l'état de valets de cette superpuissance, sont incapables de se défaire de ce vassalage, même s'ils en avaient le désir, pas plus capables que des pays aspirant à la liberté, comme la Hongrie, la Tchécoslovaquie et d'autres, ne peuvent se libérer d'une dictature soviétique intransigeante et de beaucoup supérieurement armée pour écraser en quelques heures tout essai d'affranchissement. Devant des forces supérieures, que peut-on faire? Est-ce à dire que tout espoir soit vain et inutile, tout effort apporté à promouvoir la cause créditiste? Oh non, pas du tout. Mais cela veut dire qu'il ne faut pas compter sur des gouvernements, sur des changements de parti au pouvoir, pour venir à bout d'une puissance supérieure à tous les gouvernements du monde. C'est gaspiller ses énergies en pure perte. C'est vouloir abattre une forteresse avec des boules de coton. Oh, il advint bien un jour qu'un jeune homme, simple berger, sans entraînement militaire, sans autre armure qu'un bâton, une fronde et Saint-Pierre dans sa gibecière, affronta et abattit d'une seule pierre un colosse mesurant 9 pieds, homme de guerre depuis sa jeunesse, bardé d'airain de la tête aux pieds, sa tunique d'airain atteignant aux chevilles et pesant 150 livres, armé d'un javelot et d'une lance terminée par une pointe de fer pesant 18 livres. Mais c'est une toute autre force que celle de la fronde de David qui lui donna la victoire contre le géant Goliath. David n'était pas encore un roi, mais alors qu'il affronta Goliath, mais il avait déjà reçu l'onction du Seigneur. Remarquez bien, la consécration du Seigneur, pas l'onction d'un parti ou d'un ralliement politique quelconque, ni l'onction d'un appétit d'argent ou d'honneur. Non, il était le consacré du Seigneur. David avait mis toute sa confiance en Dieu, sachant bien que, de la force de son bras, Dieu disperse les superbes. Toute une leçon nous est donnée là. Les créditistes de verre de main se la font souvent rappeler et tâchent d'en tenir compte. Seule une puissance céleste peut triompher des plus puissantes forces terrestres. Le ciel veut quand même que nous fassions notre part, de notre mieux, mais sans nous fier uniquement à notre action. Le jeune David ne dit pas « Je ne ferai rien, à quoi bon en face d'une force qui se rit de ma faiblesse ?» Non, il fit sa petite part, il prit les armes à sa portée, bâton, fronde, pierre, sans doute ridiculisé et traité de fou, et Dieu fit le reste, la grosse part. Le créditiste de verre de main ne s'arrête ni devant sa propre faiblesse en face d'une force ennemie humainement invincible, ni devant des années qui se succèdent sans succès apparent, ni devant des moqueries, des critiques ou des trahisons. Il sait que chaque pas fait pour une cause juste, chaque témoignage rendu à une vérité, chaque rayon d'espoir communiqué à des abattus, chaque élévation d'âme ou chaque conversion suscitée par son exemple et par le message qu'il porte est un gain. Et seuls les anges savent ce que ce message, ses prières et ses exemples ont fait de bien. L'apôtre, s'il s'en rencontre, s'en réjouit, mais il en rend grâce au Seigneur. S'il l'ignore, s'il ne voit pas pousser le grain semé, il continue quand même de semer, de labourer, de peiner dans la joie intérieure du désintéressement personnel, de l'unique recherche de la gloire de Dieu et du bien pour ses frères. Quant au crédit social, l'apôtre le propage par le journal Verre de main qui en est le véhicule. Il est convaincu en effet qu'un organisme économique l'adoptant favoriserait la justice distributive pour le bien de toutes les personnes, de toutes les familles. Mais, sans diminuer ses propres efforts, il compte surtout sur Dieu, comme David. Son rosaire quotidien, son heure hebdomadaire d'adoration du Saint-Sacrement, mentionne toujours dans leurs grandes intentions pour l'avènement d'une cité chrétienne et créditiste. Chrétienne d'abord, parce que sans cela, elle ne peut être créditiste. De ce côté, L'aspect actuel du monde n'est certainement pas propice à l'avènement d'une économie si conforme à l'esprit du christianisme. L'heure de la conversion devra précéder l'heure du crédit social tel que nous le concevons. Cependant, si la dictature financière n'a encore rien perdu de son pouvoir de contrôle, le créditiste constate tout de même bien que la revendication constante du droit de tout homme à des moyens de vivre a gagné les esprits, à tel point que, même dans le contexte du présent système financier, les législateurs doivent s'en tenir compte, et les contrôleurs de la finance consentent, en partie, pour une certaine sécurité sociale, ce qu'ils ont consenti sur une grande échelle pour la guerre. Comme pour la guerre, d'ailleurs, ils le font sans perdre rien de leur suprématie. La sécurité sociale, comme la guerre, est financée à coup d'augmentation de dettes et de taxes. Mais au moins, c'est un soulagement pour les nécessiteux. C'est un peu la philosophie sous-jacente au crédit social qui fait son chemin sans avoir encore la technique efficace et libératrice de Douglas à son service. Douglas n'avait pas tardé à constater la réaction du monopole bancaire contre ces propositions si logiques, si géniales et si chargées d'efficacité. Et à mesure que la conspiration du silence ne pouvait plus tenir, le monopole fortifiait ses propres positions, utilisant les moyens puissants dont il dispose pour liguer contre l'idée créditiste les politiciens de carrière, les professeurs d'économie politique, les aviseurs financiers des gouvernements, les unions ouvrières, des clercs de tous niveaux, des journaux influents et autres fabricants d'opinion publique. Il voyait clair. Dès 1924, il déclarait que rien n'étant changé dans la dictature financière qui tient entre ses mains les destinées des peuples, une deuxième guerre mondiale allait éclater avant l'année 1940, ce qui arriva. Dans les années qui suivirent cette deuxième guerre, Douglas ne comptait guère ou point du tout sur quelque action gouvernementale pour opérer la réforme nécessaire dans le système financier. Il prévoyait plutôt que le système finirait par devenir insoutenable et s'effondrerait de lui-même. Que vienne cet écroulement du système sous le poids de ses propres énormités, ou qu'adviennent des événements maintes fois prédits par les hommes privilégiés et dont on ne peut guère douter à la vue de la décadence des mœurs, de l'apostasie, de la paganisation de peuples qui furent chrétiens et les mieux nantis de biens matériels, dans l'un ou l'autre cas, les vivants ou survivants d'alors ne seront pas sans lumière pour se donner un organisme économique et social digne du nom.
Nous venons d'entendre M. Louis Évin, le fondateur et directeur général du journal Vers demain.